scène africaine fait sa révolution sur Radio Esperanza. Mama Africa. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge en Afrique.
Voilà donc sur Radio Esperanza pour la toute première de l'antenne africaine avec Aurore, Betty et Lise. Bonsoir les filles.
Bonsoir Kiki.
Bonsoir tout le monde.
Ce soir, nous avons également à la technique Sylvain et déjà un invité, Robin. Bonsoir les gars.
Bonsoir.
Alors bien, ce soir, tout comme ce sera le cas demain et dimanche, nous aurons l'occasion de vous parler de l'Afrique, de sa beauté. Et nous espérons ainsi peut-être, si ce n'est pas encore le cas, vous donner l'envie de voyager à la découverte de ce continent magnifique. À chaque soir, c'est thématique, et du nord, en passant par le centre, on tirera un trait direct vers le sud. Donc ce soir, un peu du nord, demain, un peu du centre, et dimanche, le sud. Mais en fait, l'Afrique, c'est où? C'est qui? C'est quoi? En tous les cas, moi, j'ai un son qui vient d'Esperanza. Si je te dis Afrique, tu penses?
Pompe Afrique.
Et si je te dis Afrique du Nord?
Maghreb. Oui, j'ai envie de dire harissa parce que j'ai faim, j'irais bien manger un petit bout. L'Afrique positive, l'Afrique du Nord positive, c'est la cuvée du président, ce bon vin algérien, un gris de Poulawan, ouais.
Bon appétit.
Si vous passez à table.
Dit Afrique du Nord, vous pensez?
Khaled, dans le désert. L'Afrique de Touareg qui est très chouette aussi, hein. On est toujours en Afrique du Nord, Tinariwen.
Touareg.
La cuisine.
Les Gnawa.
Ah, mon amoureux.
Ouais, les chants traditionnels. Ouais, je peux vous chanter un. Hein. C'est en Amazigh. Et voilà, les Amazigh, comme vous le savez, c'est une richesse. En Afrique du Nord, mais jusqu'à maintenant, avec le système qui est là dans nos pays, toujours il n'y a pas vraiment toute la place à la culture amazigh, mais il y a un combat pour voilà, pour prendre cette place. Voilà. Manihilan, manihilan, mitani mezoura, manihilan, manihilan. متنين الكورة وهاجرا وهاجرا وفغنتي مورا وهاجرا وهاجرا وفغنتي مورا اي منيلان منيلان متني مزورا منيلان منيلان متنين الكورة اي تهلق اي تهلق اي تهلق اي تهلق إتهلا 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 تيمورتينو مانيلان مانيلان متني ما مانيلان مانيلان متني نكورا جو سوي سي أسبيرانزا جو كلامي سي فانزا جو سوي أن سان باب جو سوي أن هوم أفيك لي زوتر ميرسي.
L'Afrique, ce sont donc ces hommes, ces femmes, mais tous ceux surtout qui font que l'image de ce continent peut être de plus en plus positive. Et alors, dans mes pérégrinations dans le site d'Esperanza, j'ai eu l'occasion de tomber sur différentes associations, et notamment sur Robin, qui est à nos côtés, qui fait partie de CADTM. Bonsoir Robin.
Bonsoir. Alors d'abord, je vous explique, j'imagine quand même, c'est quoi le CADTM? Des fois, on s'y perd un peu dans toutes ces lettres.
Grave. Merci à toi.
Une petite précision, déjà, on est à l'origine, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. On lutte toujours depuis maintenant 27 ans, 1990, pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Mais je dis à l'origine parce qu'on a changé de nom très récemment pour s'appeler Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Donc je vous explique d'abord. Donc on est un réseau international avec des groupes militants, dans plus de 30 pays, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Europe, enfin sur chaque continent, et spécialement en Afrique et en Afrique du Nord. Donc en Afrique, il y a plus d'une dizaine de pays dans lesquels on est présent. Et donc, comme je disais, on a changé de nom récemment parce que depuis 2007-2008, on travaille beaucoup sur la lutte contre les dettes des pays du Nord. Et pas que, hein, mais on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la Grèce, sur l'Espagne. Mais au fait, notre objectif, c'est montrer... On préconise de faire un audit de la dette. Auditer la dette, c'est analyser la dette, d'où elle vient, à qui elle a profité, etc. Et quand on fait cet audit, on voit qu'il y a une grande partie de la dette qui est illégitime. Illégitime, illégale, odieuse. Illégitime, bah, c'est une dette qui n'a pas profité à la population. Illégale, c'est une dette qui est contraire au droit international, au droit national. Et odieuse, on parle à l'origine, donc là je reviens un peu en arrière. Donc on travaille surtout sur les dettes des pays du tiers-monde. Et quasiment l'entièreté de ces dettes sont des dettes odieuses. C'est des dettes qui ont été contractées en général par des régimes dictatoriaux, corrompus. Et là aussi, la population n'a pas du tout vu en quoi cette dette leur a profité. Et donc on a tellement de choses, d'activités au sein des thèmes que je peux m'y perdre un peu. Donc je revenais sur le nom. Donc on travaille toujours sur les dettes des pays du Sud. Mais vu pour plus de cohérence, on a changé de nom pour s'appeler Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Et avant de vous parler un peu de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, souvent les gens posent la question, est-ce que ça marche ? Ben, c'est un énorme combat. Donc on travaille sur différents niveaux. Déjà, je disais, on est un mouvement social, on travaille avec plein de mouvements sociaux de par le monde. Et l'idée, c'est de fournir des arguments pour les mouvements sociaux, pour pousser les politiques. Bon, on pourrait parler pendant des heures, hein, de notre travail, mais je dirais en quelques mots, pour pousser les politiques à justement arrêter l'austérité, arrêter les politiques d'ajustement structurel. Ce qui est intéressant, donc depuis une vingtaine d'années, on travaille sur les dettes des pays du Sud. On voit que ce qui est fait au Nord depuis quelques années, c'est ce qui a été fait au Sud depuis les années 80. Et donc, si je m'y perds, tu me dis...
Non, pour moi c'est très clair, mais ça me pose une question, parce que quand je suis arrivée face à votre association... Ouais. Ben, je vais peut-être expliquer le contexte. C'était en cherchant un mouvement citoyen fort et positif qui était plus particulièrement actif en Afrique du Nord. Ouais. Et le hasard des clics, qui n'est pas hasardeux, m'a amené vers le CADTM qui était ici à Esperanza. Et à part celle-là, il y a très peu d'associations dont le texte est rédigé en français qui promeuvent quelque chose... qui n'est pas un mouvement citoyen de rébellion contre l'État établi. Et donc oui, moi, je suis très curieuse d'en savoir plus, et je pense que c'est le cas de mes comparses radioteuses. Mais j'ai cru comprendre, lorsque je suis venue vous voir, qu'il y avait aussi quand même plus d'actions dans le Nord-Afrique qu'en Belgique, qu'apparemment, par exemple, au Maroc, ils sont 13, c'est ça ? Il y a 13 groupes.
Pas 13 personnes, mais 13 groupes locaux.
Alors qu'en Belgique, il n'y en a que deux. Enfin, quelque chose comme ça.
Ils sont très actifs au Maroc. Mais du coup, je vais revenir pour juste boucler. Quand les gens demandent est-ce que ça marche, en quelques mots. Hein. Donc, bien sûr, c'est un combat très long. C'est vraiment un long travail. Mais donc, en quelques mots, donc, comme je disais, on préconise de faire l'audit et d'annuler les dettes. Il y a plein d'arguments pour les personnes curieuses. Hein, donc, allez voir sur notre site. Et là aussi, je rebondis sur ce que tu disais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un site en français, anglais, espagnol, portugais et arabe. Bon, après, il y a encore en italien, en allemand, mais là, c'est un peu moins développé. Et pour résumer, quand les gens demandent est-ce que ça marche, ben, par exemple, en Équateur, on a fait un audit de la dette qui a abouti à annuler l'équivalent des trois quarts de la dette de l'Équateur. Et cet argent a servi pour des politiques d'éducation, santé. Et ensuite, un autre exemple, c'est la Grèce. En 2015, on a fait un audit de la dette grecque qui a abouti à montrer que quasiment l'entièreté de la dette grecque est illégitime, illégale, odieux. Voilà, pour revenir au sujet principal, je vous invite vraiment à venir sur le site du CADTM, cadtm.org. Et alors, c'est là qu'il y a un lien aussi avec, en Tunisie, nos amis du ATTAC CADTM Tunisie sont très actifs également. Et il y a d'ailleurs un projet de loi pour l'audit de la dette en Tunisie. Et quand on analyse la dette, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en 2011, donc, il y a eu des mouvements de soulèvement qui ont permis de faire partir le président qui s'accaparait les richesses d'une manière totalement honteuse. Et ce qui est intéressant de voir quand on analyse la dette, c'est que malheureusement, la dette, elle a encore augmenté très fortement depuis 2011. même si c'est plus les mêmes personnes, c'est plus les mêmes hommes au pouvoir, mais la logique de ce qu'on appelle le système d'aide continue. Et c'est la population qui paye. Quand on dit l'État paye, c'est la population qui paye. Et nous, donc, on conteste ça par différents moyens. Et au Maroc aussi, donc, pour enfin revenir aussi à ce que tu disais, ce qui est intéressant, le groupe CADTM Maroc, ATTAC CADTM Maroc, ils sont très actifs sur les luttes, sur les mobilisations, mais aussi sur la justice climatique et aussi sur le microcrédit. On pourra encore en parler après si on a un petit temps. Mais à ATTAC Maroc, ils ont 13 groupes locaux, donc des personnes actives qui soient de n'importe quel milieu, qui décident de se dire il y a quelque chose à faire sur la dette, contre l'austérité, il faut se réunir, il faut se rassembler, travailler là-dessus. Et donc en Belgique, oui, on a un groupe local à Bruxelles, un groupe local à Liège. Si vous êtes intéressé de nous rejoindre, là aussi, hein, quelques clics sur le site. Et j'ai encore le temps pour parler un peu des luttes au Maroc. Donc là, En quelques secondes.
Parce qu'on voudrait savoir concrètement ce que fait l'organisme sur le terrain au Maroc de manière pratique.
Là, il y a un gros mouvement de mobilisation dans le RIF suite à la répression très forte, très dure du régime marocain, du gouvernement, suite à justement un ras-le-bol de la population contre ces injustices sociales, injustices économiques. On pourrait même parler des injustices écologiques, il y en a énormément aussi au Maroc. Et donc, ils se mobilisent, ils manifestent depuis plusieurs mois. Et à chaque fois, la réponse du gouvernement marocain est la même. Hein, c'est la répression. Il y a des arrestations politiques, des prisonniers politiques. Grâce aux mobilisations, par exemple, il y en a eu une ici le 20 juillet. Il y a eu quelques personnes qui ont été libérées, mais malheureusement, ça continue. Et donc, la population marocaine, une grande partie de la population marocaine se mobilise pour revendiquer des droits, juste pour la dignité, comme on l'a dit en 2011, comme c'était le cas en Tunisie et en Égypte, mais même le Maroc s'est beaucoup mobilisé. Et pour parler d'autres campagnes sur lesquelles on travaille au CADTM, donc le réseau international est principalement le Maroc, il y a les luttes contre les arnaques au microcrédit. Il faut savoir que le microcrédit bénéficie souvent d'une image positive avec un aspect un peu social.
On en entend beaucoup parler en Afrique. Hein. Ouais. C'est vraiment...
Et par exemple, oui, on y travaille beaucoup au Mali aussi. On a une caravane au Mali au mois de novembre, mais dans plein d'autres pays, au Bénin encore. Ouais. Et donc au Maroc, on a eu une caravane assez importante en 2014. Et pour parler un peu du microcrédit... C'est des institutions financières qui s'attaquent à des personnes, on va dire, faibles d'une manière générale, des fois des personnes analphabètes, vulnérables, c'est mieux, ouais. Et qui vont faire signer des contrats totalement orduriers, des contrats où ils vont vraiment arnaquer les personnes qui vont se retrouver ensuite dans une spirale d'endettement et qui vont toucher, ça va toucher toute la communauté parce que les personnes, il y a un sentiment de culpabilité, souvent avec la dette. Et d'ailleurs, une petite parenthèse pour dire qu'au CADTM, à la base, on travaille sur les dettes publiques externes, mais on travaille aussi de plus en plus sur les dettes privées, ce qu'on appelle les dettes privées légitimes, comme le microcrédit, comme les dettes étudiantes, comme les dettes paysannes.
C'est-à-dire des dettes privées, quand tu dis dettes privées, c'est des dettes contractées par des entreprises, par exemple ou,
Non, enfin, plutôt des dettes des individus,
oui, pardon. Okay, d'accord,
mais qui sont frauduleuses, là aussi, frauduleuses, ou en tout cas qu'on peut contester totalement comme illégitimes. Mais il y a aussi les dettes hypothécaires. Donc, par exemple, ce qui a provoqué la crise aux États-Unis, c'est des dettes hypothécaires avec des personnes qui, là aussi, souvent avec des agents qui veulent à tout prix faire des chiffres, qui vont arnaquer des personnes qui ne sont pas forcément en situation de répondre à ça. Et puis, ça va provoquer toute une bulle qui éclate, qui touche tout un État. Et là aussi, quand on dit l'État, c'est la population qui paye au final. Et sur la Tunisie, on a aussi quelque chose de très important. Le Parlement, faut savoir que la Tunisie est en situation de crise économique depuis quelques mois. Depuis quelques années même, mais oui, là, en tout cas, de plus en plus élevé.
Depuis 2011, c'est
un peu chaotique quand même.
Et il y a un risque de défaut de paiement. Et puis, il y a des parlementaires qui doivent, je dis depuis quelques mois, parce que on attend depuis quelques mois, ils devraient avoir la signature de la loi pour un audit de la dette. Et là, nous, ce qu'on propose au CADTM, c'est un audit public, un audit citoyen, pas juste quelques députés qui vont dans leur coin statuer « Ah ben, maintenant, il n'y a pas de problème de dette ». L'objectif, c'est vraiment d'impliquer la population. Et ensuite, la population doit le revendiquer aussi.
Voilà, c'était Robin. On est un peu pressé par le temps, mais c'est vachement intéressant. Et on peut dire aux auditeurs et auditrices du 106.2 où te trouver demain, où trouver le CADTM exactement, à quelle heure et les infos pratiques.
On a le stand là pendant 3 jours au Village des Possibles, donc le village des associations. On est juste à gauche quand vous rentrez, à côté du musée du capitalisme. Et on a pas mal de petites brochures. Et par exemple, un truc qui est très intéressant, c'est répondre aux questions qui piquent. Un peu les dîners de famille où une personne va dire « Ah, mais la dette, il faut la payer ». Et on répond un peu à toutes ces questions-là.
Super. N'hésitez pas, en tout cas, demain, si vous êtes sur le site d'Espéranza, d'aller voir le stand. Tu y seras, Robin, demain,
ouais, bien
pour
sûr,
accueillir tout le monde.
On est une bonne équipe.
Super.
On parle aussi, bien sûr, du lien entre les dettes et migration.
Ok. Bah oui, des ponts, faire des ponts contre leurs murs.
Des choses qui ne sont pas évidentes, on essaie de les montrer justement, et qu'il faut s'attaquer à la dette, c'est pas quelque chose d'abstrait.
Super.
Merci. Mille merci.
Merci beaucoup.
De toute façon, on mettra toutes les infos sur le site et le Facebook, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sur place malheureusement, vous pouvez toujours faire le clic en ligne.
Merci beaucoup, merci Robin.
Bonne soirée, au revoir.
Ça, je vous le laisse.
Merci. Yeah!
Vous êtes toujours sur Radio Esperanza, 106.2 ce soir avec nous. On s'écoutait Noura Mint Semali avec sa chanson Arbina. Noura Mint qui nous vient de Mauritanie. C'est une griotte. Elle transmet le savoir et la poésie. Elle sera en concert sur la scène Alpha dimanche à 18h45. Et tout de suite, je cède la parole à notre Betty chérie.
Ah oui, chers auditeurs, c'est Betty. Nous sommes à l'antenne africaine, une antenne qui vous fait voyager en Afrique. L'Afrique, mais sous son aspect, pas l'aspect que vous connaissez véhiculé par les médias internationaux, étant une Afrique qui est plein de guerres, une Afrique misérable. Mais aujourd'hui, dans cette antenne africaine, nous essayons de voir les efforts des Africains, présenter l'Afrique sous un autre aspect, un aspect d'espoir, d'optimisme, et dans toutes ses diversités, ses couleurs. Et aujourd'hui, dans l'antenne africaine, nous allons vous présenter une émission, mais c'est ça a été réalisé à Goma, à l'est de la RDC, qui est mondialement connue comme capitale de viol. Mais ici, aujourd'hui, nous vous présentons certains efforts des femmes, les femmes, les combats de la femme pour la parité. Et bonne évasion, et on se retrouve tout juste après.
Au travers des siècles, les grandes manifestations ont fait l'histoire de l'humanité. À l'instar des grandes révolutions qui ont fait notre monde, la lutte des femmes contre les inégalités sociales est loin d'être un combat terminé. Dans de nombreuses sociétés, les droits et devoirs varient selon qu'on est homme ou femme. Dans la plupart des cas, cette différence de traitement est en défaveur de la femme. Ces inégalités ont parfois amené des femmes à se sentir discriminées. Elles ont alors décidé de revendiquer le respect de leurs droits. Ce fut le début de la lutte pour la parité et l'égalité des sexes.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Solange Gasanganirwa est la chef de programme genre au sein de Pôle Institute à Goma, RDC.
La lutte des femmes a commencé en Occident et aux États-Unis, en Amérique, avec des femmes occidentales qui se sentaient discriminées par rapport aux hommes et qui ont voulu manifester et revendiquer leurs droits. Au XVIIIe siècle, la lutte a commencé. Les femmes qui se retrouvaient dans des partis politiques n'avaient pas le droit de vote. Mais la situation variait d'un pays à l'autre. Et au début du XXe siècle, la lutte s'étendait à plusieurs pays d'Europe.
En 1917, en Russie, alors que 2 millions de soldats sont morts pendant la guerre, des femmes choisissent le dernier dimanche de février pour faire grève. Elles réclament du pain et la paix. Ce dimanche historique tombe le 8 mars dans les calendriers grégoriens. 4 jours plus tard, les femmes obtiennent le droit de vote. Il a fallu attendre 1977 pour que les Nations Unies établissent la journée du 8 mars comme journée internationale en faveur des droits des femmes. C'est une journée des manifestations à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité.
Nous voulons être comme les hommes, nous évaluer par rapport à nos maris, à nos papas. Je suis femme pour enfanter, mais homme pour tous les autres travaux.
La question de la parité, ce n'est pas seulement une question de lutte de la femme. Ça concerne tous ceux qui estiment qu'on a besoin d'un monde juste.
Ça veut dire 50 hommes, 50 femmes.
C'est la complémentarité. C'est l'égalité des chances et des droits entre l'homme et la femme.
La parité se conçoit de différentes manières et il nous appartient à nous, femmes et hommes, d'en faire le distinguo.
Quand on parle de la parité, certaines femmes et certains hommes d'ailleurs interprète cela comme étant un concept qui autorise à la femme de faire ce que font les hommes, mais dans le négatif.
La parité, mépriser l'homme, ce n'est pas une bonne chose. Même si la femme travaille au même titre que son mari, celle-ci devra toujours se soumettre à son mari.
L'essence même de la parité, ce n'est pas au niveau des familles. Ce n'est pas à dire que vous, en tant que femme, maintenant, vous allez oublier vos devoirs au niveau des ménages et commencer à amener cette parité-là dans votre foyer. Non. Il faut savoir concilier votre travail et votre ménage.
En ce jour, plusieurs inégalités liées au genre persistent dans nos sociétés. Néanmoins, beaucoup de progrès ont été accomplis dans plusieurs secteurs de la vie. Aujourd'hui, il est plus fréquent de voir une femme militaire, politicienne et même mécanicienne. C'est un signe que ces métiers jadis appartenant aux hommes deviennent progressivement des lieux où peuvent s'émouvoir facilement les femmes. Princesse Kavera est une femme mécanicienne à Goma.
Moi, Kazia Oumina Kawiya, ça fait déjà, c'est depuis 2005. Parce que Nikwa Nasoma,
c'est depuis 2005 que j'ai débuté mon travail. J'étudiais et pendant les vacances, je travaillais au garage. C'est en 2008 que j'ai commencé à gagner de l'argent. Aujourd'hui, je me retrouve avec plusieurs contrats de service. Ce travail m'aide à prendre soin de mon fils et de toute ma famille. Je ne me retrouve pas dans la mendicité car je sais subvenir seule à mes besoins.
Comme Princesse Kibwana, elles sont nombreuses des femmes qui se démarquent. Déterminées, elles ont brisé les mythes de la culture africaine.
Quand je suis avec les hommes, je ne me vois pas femme, je me vois un humain comme les autres. Alors quand je dois travailler, je ne dois pas me comparer que moi parce que je suis femme, je dois faire ça et ça. Non, je suis avec les autres, nous sommes des humains, nous sommes des personnes.
La trentaine, Marie-Claire Toulinabo est une menuisière de profession. Elle exerce ce métier depuis maintenant plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle dispense des cours dans une école d'apprentissage des métiers dans la ville de Goma.
En première, j'enseigne la technologie outillage et la technologie des connaissances des bois. En deuxième, le dessin technique, mais aussi j'enseigne l'économie professionnelle. C'est-à-dire apprendre les enfants comment ils vont travailler dans des ateliers ou bien dans des différentes entreprises. Et en troisième, je forme en pratique et la technologie des menuiseries, c'est-à-dire toute la construction du bois dans les bâtiments.
Les élèves l'apprécient.
Vraiment, il est très fort parce qu'il nous aide à bien dessiner. Le dessin, vraiment, c'est une grande option ici chez nous à Menuiserie.
Dans son sillage, on retrouve d'autres figures et chacune avec une histoire particulière. Une histoire qui incite à l'éveil de conscience pour la femme africaine. L'environnement et le rêve sont des principaux catalyseurs dans le choix de plusieurs.
Notre père est mécanicien. J'ai grandi dans cette ambiance. Ce qui m'a emmené à aimer ce travail et étudier la mécanique. J'ai fini et j'ai demandé du travail. Aujourd'hui, je suis retenue à l'office des routes en tant que mécanicienne.
Je suis née dans une famille militaire. C'est-à-dire, mon papa n'est pas militaire, mais ses sœurs, mes tantes. J'ai eu deux tantes à Kinshasa. L'une était PEM au camp Seta et l'autre était parachutiste au niveau de Ndolo, toujours à Kinshasa.
Tout part d'un rêve, hein, tout part d'un rêve, tout part d'une ambition et tout part des injustices sociales. Et donc, je crois que la grande de mon inspiration d'accompagner les femmes ou défendre la cause des femmes ou d'autres catégories de vulnérables tient de ce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui n'offre pas des cadeaux aux vulnérables et c'est des personnes qui sont dans leurs droits. Mais personne, il n'y a personne qui veut les accompagner sans appui ou sans argent. Et moi, au regard de tout cela, j'ai choisi d'accompagner cette classe des femmes qui n'ont pas de voix.
Maître Nadine Saïba dirige le projet de lutte contre les violences sexuelles au sein de l'Association du Barreau américain, une ONG internationale dont le staff est composé des 60% des femmes. Charles Guma Congo est le directeur de ABA, Association du Barreau américain.
Et donc, ce n'est pas une question de... Le poste que Nadine occupe, elle l'occupe parce qu'on a voulu faire de la parité, c'est une question de compétence. Et pour arriver à ce niveau de responsabilité au sein de ABA, il faut de la compétence. Et c'est ça qu'on met en avant. Mais il y a Nadine, il y a également d'autres maîtres Amani, il y a maître Fatou, il y a Diane. En fait, les grands postes de responsabilité ici au sein de ABA sont plus occupés par les femmes. Les hommes, c'est une toute petite minorité. Grâce à son dynamisme et à son besoin d'excellence, dans tout ce qu'elle a à faire, elle a beaucoup évolué dans la maison jusqu'à devenir aujourd'hui directeur de notre plus grand projet de lutte contre les violences sexuelles.
Aux côtés de ses collègues hommes, un monde juste est l'idéal pour tous.
dans le domaine de justice de surcroît, on est plutôt attaché vers un idéal de justice, un idéal de recherche d'un fondamental que tout le monde devrait avoir, le droit. Et les femmes, ici, réclament certains droits. Autant les hommes peuvent le faire par rapport à un idéal, autant moi, en tant que femme, je peux le faire.
La loyauté, le travail, la discipline.
Être femme et commandant escadron dans la police nationale congolaise, colonel Marie Bagalé a réussi à montrer qu'elle pouvait s'en sortir dans un milieu d'hommes. Sa bravoure lui a valu son respect.
Avec la pacification de l'Ituri, c'était en 2003, où il y avait des gens qui avaient peur de se rendre là-bas. Au moins, on a dit que non, vous êtes de là, vous partez pour la pacification de l'Ituri. Il y avait aussi des conflits très sérieux là-bas. Les gens s'entretuaient et on devait partir. Nous sommes allés là-bas, c'était un moment là très difficile. Chaque fois, on m'arrêtait. J'étais en tenue civile. Je me faisais même journaliste, je vous dis. Je quitte là où on était logé, je dois faire tout pour arriver au niveau des candidats, aller informer, dire tout ça. Les gens croyaient que comme je suis une femme, je ne pouvais pas vraiment me comporter comme ça. À ce moment, j'étais encore capitaine. Aujourd'hui, dans la police nationale congolaise, nous avons des femmes, des morants, des commissaires supérieurs principales. Nous avons même des généraux. Vous m'avez trouvé dans la parade, une femme en train de diriger les hommes et tout ça. C'est déjà un grand pas que nous avons fait.
Les femmes ont conquis l'égalité juridique et législative, mais il reste à atteindre l'égalité dans les faits. Dans la politique, la femme est encore sous-représentée dans les instances des prises des décisions. Ouamari est une femme politicienne en province du Nord Kivu.
Avec notre culture, les us et coutumes qui ont toujours considéré la femme au second degré, aujourd'hui, nous sommes en train de nous rechercher en tant que femmes. Que les hommes comprennent et acceptent qu'il y a des femmes qui sont aussi capables de prendre des décisions.
Tout part de la base, c'est-à-dire que si dès la base, vous privilégiez l'instruction ou l'éducation des garçons, ou alors de plus de garçons, vous aurez plus haut, plus de garçons que de filles. Ben, on dit que les candidatures féministes sont encouragées, c'est parce qu'il y a eu une injustice qui a été créée depuis le début, depuis un certain niveau, et puis on essaie de rattraper. À mon sens, on devrait arriver à une situation où on ne devrait plus le dire. Et il faut que tout le monde prenne conscience. La question de la parité, ce n'est pas seulement une question d'emploi. C'est une question de mise à disposition de tous des mêmes opportunités, et ces mêmes opportunités dès le plus bas âge.
La Constitution, dans son article 14, prône la parité homme-femme. Donc, il fallait qu'il y ait égalité de chance. Il fallait que, même au niveau de la nomination, si on nommait 10 ministres, qu'il y ait 5 hommes et 5 femmes. C'est vrai qu'il y a des avancées significatives, mais ce n'est pas tout. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de ministres femmes dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, au niveau provincial, nous avons 3 femmes sur 10. Nous aimerions que ça aille jusqu'à 5. Au niveau national, 4, si pas 5 femmes sur 45 ministres. À l'Assemblée provinciale, nous n'avons qu'une seule femme sur 42 députés. À l'Assemblée nationale, nous avons 42 femmes, soit 6,5% sur 500 députés. Au Sénat, nous n'avons que 7 femmes sur 108 sénateurs. Allez-y comprendre que la lutte continue.
Et voilà, c'était l'émission sur la parité pour l'égalité, le combat de la femme pour l'égalité de sexe, l'égalité des chances. Et là, c'était la parité, comme vous venez d'entendre la dernière intervenante, c'est une parité, oui, le combat pour la parité, mais la lutte continue. C'est que le boucle n'est pas encore arrivé à...
Bouclé.
Oui, le boucle n'est pas encore bouclé. Oui, Aurore. Et là, c'était l'émission qui a été réalisée à Goma pour voir les femmes qui essaient de se démarquer dans les cercles qu'on dit un peu réservés aux hommes. Par exemple, chez nous, en Afrique, la femme n'était pas faite pour paraître en public, exercer certains métiers, parce qu'on se disait que ce sont des métiers, entre guillemets, métier des hommes. Et là, c'est un peu comme la police. Être commandant dans la police congolaise, ce n'était pas pour la femme. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des femmes et c'était un moment idéal pour essayer de tracer des portraits de ces femmes qui essaient de se démarquer du jour au jour. C'est vrai, le combat pour la parité, c'est universel. Mais aussi en Afrique, il y a ces femmes qui sont en train de se battre pour cette parité.
Et ouais, et à Esperanza aussi, il y a des femmes qui se battent pour la parité. Justement, c'est exactement tout pile ce que tu viens de dire. Il y a Imani là sur la scène côté jardin. Mm-hmm. Elle a commencé il y a une petite demi-heure. Elle est en train de mettre un feu total. Je viens d'y passer 2 secondes. Les gens sont furieux. Donc la parité, c'est aussi pour les femmes via la musique. Et c'est maintenant sur la scène côté jardin avec Imani à Esperanza.
Imik Simik. حفوس وين دوينو إيران فتو إيميك سيميك أفوس حفوس وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown town town and come downtown town town I spend money and time lose friends and cry And a motherless child, I will come downtown to you now, 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 to you now, now, now. Imik simik, afos hufos, wink dwino, iran ftu, oh, imik simik, afos hufos, lih sfata sayno.
C'était Indy Zara sur le 106.2 Radio Esperanza. Vous êtes toujours à l'écoute avec nous ce soir sur l'antenne africaine. On est quatre autour de la table et on s'éclate. Et aussi pour dire que Indy Zara, je reviens avec elle, est une grande amie de Fatouma Diawara. Et elle sera en concert dimanche à 17h30 sur la scène du jardin du festival. Et voilà, elle a vraiment une très très belle voix. Donc pour rebondir, on passe à la littérature africaine contemporaine de l'Afrique du Nord. Moi, je suis venue dans ma valise avec deux écrivains. Et d'abord, on commence avec Leïla Slimani. C'est encore une femme, toujours des femmes sur l'antenne africaine, bien sûr, une franco-marocaine. Elle est journaliste et écrivaine, elle vit à Paris. Leïla Slimani, elle a obtenu le prix Goncourt en 2016 avec son roman Chanson douce, qui raconte l'histoire d'un meurtre, une nourrice qui assassine ses deux enfants en bas âge. Alors moi, je ne l'ai pas lu ce roman-là, j'ai lu son premier roman dans Le Jardin de l'Ogre, qui raconte l'histoire cette fois-ci d'une femme nymphomane et qui est bouleversant, ce roman est bouleversant. J'aime son écriture parce qu'elle est simple et poétique. Et surtout, j'aime Leïla Slimani parce qu'elle n'écrit pas uniquement sur l'intégration ou sa culture d'origine. Elle ne se cantonne pas uniquement à ce qu'on voudrait qu'elle soit. Explication ici.
Je suis en France depuis maintenant plus de 15 ans et je me rendais très bien compte. Enfin, je suis très lucide sur ce qu'on pouvait attendre de moi en littérature. Finalement, que je raconte l'identité, les femmes, la douleur, l'honneur, les Arabes, le sang. Non, mais voilà, c'est des thèmes. Puis d'ailleurs, quand j'ai rendu mon premier manuscrit, plusieurs personnes à qui j'ai parlé m'ont dit « Ah, ben, ça va être encore un truc sur l'identité, la fille maghrébine qui arrive. » Donc, j'avais envie de surprendre, évidemment, et de montrer aussi, et c'est très important, que les Maghrébins, les Arabes, ont accès à l'universel, peuvent raconter des histoires qui parlent à tout le monde et ne sont pas obligés de ne parler que d'histoires identitaires ou folkloriques.
Peuvent s'emparer d'un fait divers qui s'est passé à New York, raconter une histoire qui se passe pour l'essentiel dans un appartement bourgeois de Paris.
Voilà, le monde nous appartient à nous aussi, on peut l'ausculter tout aussi bien qu'un Chinois, un Anglais ou je ne sais qui d'autre.
Voilà, en fait, Leïla Slimani donc l'a parlé sur les ondes de France Inter et elle explique comment les personnes d'origine maghrébine ou juste des gens marocains, tunisiens, etc. ne doivent pas uniquement se cantonner dans la littérature et dans les arts en général, dans ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire expliquer à chaque fois d'où ils viennent, leur parcours, etc. Elle prouve donc que c'est possible et je vous la conseille vivement. Son écriture est fraîche et vraiment incisive. On sent la journaliste en elle. Et aussi un autre auteur que beaucoup de monde connaît, je pense, c'est Tahar Ben Jelloun. Alors au-delà de l'écrivain marocain très connu, notamment pour lui aussi un prix Goncourt avec le roman La Nuit Sacrée en 1987, Tahar Ben Jelloun, il est peintre. Oui, il est aussi peintre et là où dans l'écriture, il aborde souvent des sujets, lui, qui sont assez sombres, comme les racines de la société marocaine et le racisme latent qu'il y a à notre époque dans la société marocaine. Dans sa peinture, il est quelqu'un étonnamment de très optimiste. Ses peintures sont pleines de couleurs, elles sont très belles. Il cite, j'écris sur la douleur du monde et je peins la lumière qui nous manque. Dans mes livres, je traque les solitudes. Dans mes toiles, je chante la multitude heureuse. Ainsi, des jardins et prairies voyagent pour retarder et décourager le chagrin. C'est très beau, c'est ce qu'il écrit à propos de sa peinture pour la présenter. Je vous conseille donc d'aller voir les peintures de Tahar Ben Jelloun, mais aussi les livres, les lire donc de Tahar Ben Jelloun pour comprendre cette société marocaine qui est tout en paradoxe et tout en controverse. Voilà, une petite note musicale pour se faire maintenant avec une petite note musicale.
C'était donc Nourabine Tsemali avec Egetmar. Nous aurons l'occasion d'écouter sa voix étonnante et chaleureuse dimanche sur la scène Alpha à 18h45. Donc surtout ne la ratez pas, 18h45 dimanche.
L'eau potable en Afrique comme ailleurs, c'est la vie. Et sur l'antenne africaine et dans Radio Esperanza, l'eau, c'est la vie aussi. Sauf qu'en Afrique et dans le monde plus généralement, près de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable aujourd'hui. La faute à des infrastructures défaillantes, à des maladies présentes dans l'eau, à des catastrophes naturelles, la rendant impropre à la consommation. Alors dans l'antenne africaine, évidemment, on se concentre plus précisément sur le continent africain.
Et c'est le continent où l'accès à une eau de qualité est vraiment limité. Selon l'UNICEF, quelques chiffres début des années début 2017, les individus africains passaient 40 milliards d'heures chaque année juste pour marcher et rapatrier de l'eau jusqu'à leur maison, jusqu'à leur domicile. Pourtant, en Afrique, Betty, tu le sais mieux que moi, au Congo, une partie du pays est entourée du lac Virunga. Donc, ce qui est sûr, c'est que le continent africain ne manque pas d'eau. C'est le contraire, il y en a plus que nulle part ailleurs. Mmh. Mais soit elle n'est pas potable, soit elle n'est pas accessible, soit les moyens pour l'utiliser, pour la rendre consommable, ne sont pas encore en application. C'est vrai que c'est dur, que ça coûte cher et que voilà, tout n'est pas facile à faire.
Ouais, c'est ça.
Mais ce qui est bien, c'est que des gens ont des initiatives complètement géniales. Alors, il y en a partout, hein, dans tous les pays en Afrique. Ici, cette fois-ci, on se concentre un petit peu plus sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Donc, moi aussi, je vais mettre mes initiatives, mes recherches plutôt là-dessus. Il faut savoir qu'en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les ressources en eau douce, ont baissé de 2/3 ces 40 dernières années. Donc maintenant, ces parties-là du monde ont 10 fois moins d'eau potable que ce que l'ONU estime nécessaire pour vivre. 10 fois moins d'eau potable. Les conséquences sur la sécurité alimentaire, la santé humaine et l'agriculture sont telles que des mesures ont dû être prises, évidemment, et heureusement, ça a permis de vraies évolutions. Des mécanismes de gouvernance décentralisés des eaux souterraines au Yémen et au Maroc, l'installation d'un système de pompage solaire en Égypte, d'un système de collecte des eaux en Jordanie, l'adoption de méthodes innovantes de comptabilité pour l'eau, l'amélioration de la préparation face aux situations de sécheresse au Liban et en Tunisie, l'élaboration de la première politique agricole nationale aux Émirats arabes unis et des expériences pilotes technologiques consistant à installer des comptes d'eau dans les fermes. Alors, la famine en Afrique, c'est l'eau et c'est aussi la nourriture. Et on va s'écouter un petit extrait d'Euronews qui nous en parle.
L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la famine qui sévit dans 4 pays, la Somalie, le Soudan du Sud, le Nigeria et le Yémen. Dans tous ces pays, le manque d'eau et de nourriture est directement lié à des conflits, souligne le chef des affaires humanitaires qui vient de visiter 3 de ces 4 pays.
We stand at a critical point.
Nous sommes à un point critique de notre histoire, a-t-il déclaré. En ce début d'année, nous faisons face à la plus grave crise humanitaire depuis la création des Nations Unies. Plus de 20 millions de personnes dans 4 pays font face à la famine et meurent de faim. Sans efforts mondiaux collectifs et coordonnés, tous ces gens mourront. En Somalie, au moins 1200 enfants sont traités pour une sévère malnutrition. Les réserves d'eau sont épuisées, conduisant des milliers de personnes à s'abreuver à de l'eau contaminée. Au Yémen, les parties en conflit ont toutes promis de faciliter l'accès des zones de guerre aux humanitaires, mais dans les faits, elles n'en font rien. L'ONU tire la sonnette d'alarme.
Oui, et l'ONU a raison de tirer la sonnette d'alarme une deuxième fois pour la famine en Afrique. Et puis un peu partout dans le monde, hein, il ne faudrait pas oublier qu'on est plus que privilégiés ici et que des gens continuent à souffrir lourdement. Et c'est d'autant plus magique de voir que c'est justement ces personnes-là qui trouvent des solutions qu'on n'aurait même pas imaginées. J'en ai encore une petite là pour bien se terminer. C'est un chercheur tanzanien qui vient de remporter le prix de l'innovation africaine qui est décerné par l'Académie royale britannique de l'ingénierie. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est la grande Bretagne qui rend un prix pour l'innovation en Afrique. Ceci dit, c'est comme ça, il a eu son prix et donc en fait son système de filtration intègre des nanoparticules, c'est un petit peu compliqué mais ça marche bien. L'appareil est capable de purifier l'eau de toutes ces substances toxiques, quelle que soit d'origine, que ce soit chimique ou bactérienne. Son appareil fonctionne sur le modèle du filtre à sable, donc finalement c'est assez simple, mais il utilise des nanocomposants qui sont capables de retenir tous les produits chimiques, les pesticides et les métaux lourds, comme le cuivre ou le fluorure, ainsi que des micro-organismes comme les bactéries ou les virus. Ce qui fait en fait que dans n'importe quel lac, rivière ou de mer ou de puits d'eau, avec ce système, on peut directement, les habitants peuvent directement utiliser l'eau qui viennent de choper de leurs propres réserves et la purifier en quelques secondes.
J'ai une question. En fait, ils utilisent le sable pour purifier l'eau. C'est ça. Du sable un peu modifié, finalement.
C'est ça, oui. Qui, tu sais, absorbe quelque part, comme ça, comme dans un filtre, on peut dire un filtre à café pour la faire hyper simple. Et tu dirais que c'est le sable qui garde les nanoparticules ou les bactéries ou tout ce qu'on veut. Et donc, il en découle de l'eau propre. Alors, j'imagine que c'est plus compliqué que là, en quelques mots. Mais en tout cas, moi, ce système-là, je l'ai testé quand on a été à Goma. Et donc, en RDC. Et j'ai pas été malade. Et pourtant, l'eau, apparemment, était pas géniale. Donc. Betty, peut-être que confirme. Ça marche, Betty.
Oui, je confirme. Et tu sais, il y a des fois, quand on se retrouve dans une situation difficile, il y a toujours une voie de sortie. Et là, on essaie de le faire avec les moyens de bord. Le sable, c'est vraiment à Goma. Et voilà. On se donne de l'eau potable à partir du sable. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout facile parce qu'on doit la demande, il est un peu plus grande. Énorme, ouais. Ouais, et en usant de cette technique, c'est un peu difficile d'avoir une grosse quantité, une grande quantité d'eau potable. Bon, mais on essaie toujours.
Mais à Goma aussi, mais là du coup on s'éloigne un petit peu plus de l'Afrique du Nord, mais il y a aussi une super initiative pour l'eau, tu peux peut-être nous en parler en quelques secondes, avec le monsieur, j'ai oublié son nom, je suis désolée, qui a inventé un vélo.
Ah d'accord, c'est qu'il y a, par exemple, comme, c'est vrai qu'il y a pénurie en eau potable, mais aussi il y a pénurie de l'eau en général. Et donc, il y a un système, il y a des gens qui vont au lac pour puiser de l'eau et pour ramener aux gens maintenant au quartier, dans différents quartiers où il n'y a pas d'eau. Et là, on met deux points de, on peut dire, de chloration. Il y a des gens qui sont là avec du chlore.
Oui, ça, ils mettent des particules de chlore dans l'eau.
Oui, dans l'eau pour essayer de la rendre plus potable. Notable. Et voilà.
Et on peut dire qu'on s'y fait, hein, au chlore dans l'eau. Franchement.
Bah oui. Hein.
C'est mieux que pas d'eau du tout.
Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui consomment cette eau-là comme
voilà. Oui, comme si c'était de la bonne eau.
Ouais, voilà.
Et qui se porte bien.
Et même moi, j'en ai consommé jusqu'à l'âge adulte et je ne suis pas morte parce que j'ai pas
confirmé. Elle est là, elle est bien là, elle est bien.
Elle est bien
entière.
Ouais, elle est bien en chair. Mais t'es une Wonder Woman en même temps, donc je sais pas si ça vaut exemple pour tout le monde. Mais si, évidemment, ça vaut exemple pour tout le monde. Et donc l'antenne africaine, ma petite Kiki, elle se termine comme ça, avec des superbes initiatives d'un peu partout.
Et j'ai surtout envie de dire, j'ai hâte d'être demain, puisque là, on a attaqué une belle tranche d'Afrique, si je puis m'exprimer comme ça, qui était celle du Nord, avec quelques clins d'œil déjà vers le centre, puisque ben, voilà, Betty, effectivement, est originaire de Goma, au Nord Kivu, donc il est tout à fait normal qu'elle en parle, et puis ça a attiré Aurore hein, dans ses chroniques. Donc demain, ce sera tout à fait à propos, puisqu'on sera dans la Centrafrique, mais on s'étendra un petit peu vers la corne de l'Afrique, et dimanche, nous irons vers le sud. Donc, je vous invite à vous brancher sur le 106.2 à 20h30 demain, et je vous remercie, et je regarde mes comparses en les remerciant
oui,
aussi pour cette grande première
merci
de l'antenne africaine.
Yes!
L'antenne africaine, de thème en thème, éveille des consciences. L'antenne africaine respire, respire, respire. L'Afrique est belle, l'antenne africaine vous le rappelle.
Salam alaikum.